Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Secrétaire général de la Commission économique pour l'Afrique, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, honorables participants. Au moment où l'Afrique s'apprête à franchir une nouvelle étape sur sa feuille de route de gouvernance institutionnelle et politique, à savoir la transformation de la Commission de l'Union africaine en autorité de l'Union, chacun comprendra que la tenue de ce symposium sur les États-Unis d'Afrique, organisé conjointement par le ministère des Affaires étrangères du Sénégal et la prestigieuse université Cheikh Anta Diop de Dakar, revêt à mes yeux un sens très fort. J'y vois d'abord la volonté et la détermination d'un État membre de l'Union africaine, en l'occurrence le Sénégal, à accompagner concrètement et de façon constructive les efforts déployés depuis quelques années par notre organisation dans le processus en cours sur les questions du gouvernement de l'Union et des États-Unis d'Afrique. Il s'agit aussi d'un signal politique en direction de tous les États membres quant à l'accélération du tempo de l'indispensable et nécessaire mutation devant baliser la voie vers la concrétisation du rêve de nos pères fondateurs, l'avènement à terme d'une Afrique libre et unie, prospère et paisible. Je sais que l'organisation d'une telle rencontre n'aurait pas été possible sans le précieux soutien du président de la République du Sénégal lui-même, Son Excellence Maître Abdoulaye Wade. Qu'il reçoive ici le témoignage de notre gratitude profonde pour son engagement personnel et militant en faveur d'une rapide intégration africaine. Je n'oublie pas non plus mon frère et ami, le ministre d'État Cheikh Tidiane Gadio, que je retrouve avec un plaisir renouvelé et qui n'a pas ménagé sa peine pour faire entendre, avec son éloquence accoutumière, la voix du Sénégal dans les débats afférents à ces questions, débats durant lesquels, tout récemment encore, sa conviction et ses talents avérés de diplomate chevronné ont constitué un apport inestimable. Enfin, tout en saluant l'aéroport des éminents intellectuels et universitaires réunis à l'occasion de ce symposium, je voudrais adresser toutes mes félicitations à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la bien nommée, et à son équipe dirigeante pour l'intérêt qu'ils accordent à ce débat, intérêt que je qualifierais de naturel eu égard au nom illustre que cette institution porte. Votre implication et vos contributions sont indispensables à l'enrichissement de la réflexion en cours et à l'appropriation du processus engagé afin d'identifier les réponses idoines à la question de la constitution des États-Unis d'Afrique. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, 49 ans après l'accession à l'indépendance de la majorité des États membres de notre organisation et 46 ans après la naissance de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, l'affirmation d'un des pères fondateurs de l'OUA, l'empereur Haïlé Sélassié, selon laquelle, je cite, l'avenir de ce continent réside en premier lieu dans une unité politique. Mais les obstacles à surmonter sont nombreux et difficiles. Fin de citation. Reste toujours d'actualité. Si l'on se réfère en effet au débat qui s'est construit autour de l'avenir de notre continent depuis la transformation de l'OUYA en l'UYA. L'on peut être enclin à croire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Et à chaque fois que la question de la marche vers l'union politique est soulevée, le débat semble toujours achoppé sur les mêmes divergences et les mêmes interrogations qui ont finalement amené au compromis de la formule de l'OUYA en 1963, après avoir suscité déjà les mêmes passions il y a plus de 40 ans. Rappelez-vous l'affrontement entre le groupe de Casablanca de l'époque de l'OUYA d'un côté et le groupe de Monrovia de l'autre. Les premiers sont assimilables aux immédiatistes ou unionistes ou maximalistes ou fédéralistes d'aujourd'hui, qui préconisent comme étape significative vers la création des États-Unis d'Afrique de passer immédiatement à la constitution d'un gouvernement continental doté de ministres en charge de domaines précis. Tandis que les seconds, comparables dans le contexte actuel aux gradualistes, aux minimalistes, ou souverainistes, ou réalistes, veulent par contre tendre, étape par étape, à l'instar du schéma prévu par le traité d'Abuja, vers une communauté d'États reposant sur les blocs régionaux ou les CER qu'il convient préalablement de consolider. Ils précisent, quant à eux, que le gouvernement de l'Union devrait être formé d'États indépendants et souverains. Il s'agirait donc encore, à ce stade, d'une organisation de nature plutôt intergouvernementale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, à l'instar des autres régions du monde qui se sont déjà regroupées en fédérations en voie de constitution, telles l'Union européenne ou comme celles qui ont ressenti la nécessité de mieux se regrouper, je pense notamment au Mercosur et à l'ASEAN, toutes pour mieux protéger leur souveraineté. François Mitterrand disait à cet égard que l'Union européenne protégera les souverainetés de l'Europe et non l'inverse. Soit donc pour mieux protéger leur souveraineté ou pour asseoir leur puissance émergente dans ce monde globalisé qui, comme le rappelait le professeur Thiam, Ibader Thiam, est constitué de vastes ensembles régionales ou sous-régional. L'Afrique, elle aussi, s'est rendue compte à nouveau que pour mieux préserver sa souveraineté, son indépendance et sa dignité, pour se faire entendre et être enfin quelque chose dans l'ordre politique mondial, comme le réclamait la BCIS pour le tiers-État, pour pouvoir exister et jouer un rôle significatif sur l'échiquier mondial, pour devenir une puissance économique viable dans le monde tel qu'il se structure sous nos yeux. Bref, pour tout cela, l'Afrique doit impérativement s'unir. Unir ses forces dans un ensemble économique et politique viable, c'est toute la signification du passage de l'OUYA, Organisation de coopération intergouvernementale, en l'UIA, Organisation d'intégration régionale, prélude aux États-Unis d'Afrique, que proposaient déjà certains des pères fondateurs de l'OUIA, dont le docteur Osagyefo Kwame Nkrumah. À vrai dire, je puis vous l'affirmer, mesdames et messieurs les participants, que les choses bougent cependant depuis l'avènement de l'Union africaine et l'instauration du débat sur le gouvernement de l'Union dans un processus qui a culminé avec ce qu'il a été convenu d'appeler le grand débat d'Accra de juillet 2007. Depuis la déclaration d'Accra, en effet, les États membres de l'Union africaine, par la voix de leurs chefs d'État et de gouvernement, je cite, ont convenu d'accélérer l'intégration économique et politique du continent africain à travers notamment la formation d'un gouvernement d'union pour l'Afrique, l'objectif ultime de l'Union africaine étant la création des États-Unis d'Afrique. Fin de citation. La création des États-Unis d'Afrique. Après cette décision importante prise à Accra, l'Afrique s'est attelée désormais à concrétiser cette aspiration qui n'est plus un rêve ni une utopie, comme d'aucuns se plaisent à le croire. À ceux-là et aux sceptiques qui persistent à affirmer que les États-Unis d'Afrique ne sont que chimères, on pourrait commencer par répondre en citant Edgar Morin que l'on ne doit pas renoncer aux utopies parce que tout simplement nous ne pouvons pas abandonner le combat pour transformer fondamentalement nos sociétés. Mais on pourrait surtout paraphraser Henri Bergson qui disait qu'au début, les réformes les plus accomplies paraissaient irréalisables, voire utopiques. Et elles l'étaient en effet à ce moment-là. Mais par la suite, elles deviennent réalité à force de volonté, de solidarité et d'effort. Qui, en effet, aurait cru il y a un demi-siècle que le continent européen, déchiré par deux guerres mondiales, endeuillé par des millions de morts, marqué par des haines féroces et des querelles inexpiables, parviendrait en un si court espace de temps à surmonter les anciennes divisions pour réaliser son vieux rêve d'unité. Qui l'eût cru ? Il faut cependant reconnaître que certains obstacles demandent à être levés. Je suis heureux de les voir. Pardonnez-moi. Je suis heureux de les voir inscrits à l'ordre du jour de notre symposium. Permettez-moi de passer en revue quelques-uns sans pour autant les développer, car votre réunion y reviendra. Au centre du débat se pose la brûlante question de la souveraineté nationale, non négociable pour bon nombre de nos États membres, du moins pour le moment, question liée à celle du respect des dispositions de certaines constitutions nationales actuelles. La question des relations avec les communautés économiques régionales et les États membres, sur la base du principe de subsidiarité. La question de la diversité culturelle et linguistique des États et des peuples africains, quelle valeur partager ? La question de la feuille de route vers les États-Unis d'Afrique, les domaines de compétences. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, sur le fond, vous devez savoir que tous les États s'accordent à reconnaître que le salut pour notre continent réside dans le fait de se présenter unis en bloc africain plutôt qu'isolément par pays individuel. D'autant plus qu'il apparaît désormais que la gouvernance mondiale s'articule de plus en plus autour d'espaces régionaux d'intégration dans une logique de subsidiarité. Cette démarche collective tend à s'affirmer dans la façon de travailler de la Commission. Vous avez certainement noté que lors des dernières réunions du G8 et surtout du G20, l'Afrique a présenté une position commune qui n'était pas forcément celle de l'Afrique du Sud, unique pays africain présent au G20. Lorsqu'il s'est agi de demander au Fonds monétaire de vendre une partie de son or pour mettre à la disposition des États africains des ressources supplémentaires, ou lorsqu'il s'agissait d'augmenter les droits de tirage spéciaux, certains membres de la délégation sud-africaine s'y opposaient parce que contraire à leurs intérêts propres. Mais le président Montlanté lui-même a mis son poids dans la balance pour accepter la proposition des autres États africains, et les États africains ont demandé au président Montlanté lui-même de faire cette proposition au G20, ce qui a été accepté. En outre, le continent a tendance de plus en plus à parler d'une seule et même voix aux forats internationaux d'envergure. Ce qui me conforte dans la conviction que si nous avions adopté la même approche pour ce qui est par exemple les négociations sur les APE et celles afférentes au cycle de Doha, nous n'aurions certainement pas rencontré les difficultés actuelles qui découlent de démarches en ordre dispersé imposées au demeurant par nos partenaires. Il en résulte que les États africains sont souvent réduits à s'aligner sur les positions définies par d'autres groupes, comme par exemple celui du groupe des 77, composé de pays de niveaux différents, comme la Chine, comme le Brésil, comme l'Inde, sans avoir pu au préalable élaborer une position commune correspondant mieux à leurs intérêts spécifiques. C'est pour pallier ces inconvénients que nous avons décidé de le faire sur la question du changement climatique lors de la conférence de décembre prochain à Copenhague, conformément à la décision de nos chefs d'État. Je pense d'ailleurs que ce sera la première fois que nous procédions ainsi. En fait, les principaux points qui posent actuellement problème sont la feuille de route et la souveraineté. Et c'est autour de ces questions que se posent dans le débat en cours au sein de l'Union aujourd'hui les deux écoles de pensée que j'ai mentionnées plus haut. Il s'ensuit alors une situation qui va de compromis en compromis, obligeant nos États membres soit à marquer le pas, soit parfois même à reculer. Il convient certainement de procéder, comme vous allez le faire au cours de ce symposium, à davantage d'échanges sur la nature, le pouvoir et le mandat de l'Union, sur la forme et le modèle de gouvernement sur lesquels l'Afrique doit porter son choix. En effet, selon les États membres partisans de l'approche gradualiste, étape par étape, le contenu de l'objectif final vers lequel doivent s'orienter l'Union africaine manquerait de clarté et il faudrait, selon eux, préciser le modèle qui conviendra à l'Afrique. S'agirait-il d'une fédération, d'une confédération, d'un État unitaire ? Cette clarification pourrait être indispensable afin de permettre aux États membres de définir au niveau national les actions requises. Peut-être serait-il judicieux de consacrer le temps nécessaire à clarifier ces points lors des échéances prochaines pour mieux décanter la situation. Car sans orientation claire, les craintes et les doutes subsisteront avec les mêmes discussions, les mêmes argumentations. Le gouvernement de l'Union avait été conçu comme une étape importante vers les États-Unis d'Afrique, sous la forme d'un exécutif continental, doté de ministères précis, avec une banque centrale, un fonds monétaire et une banque africaine d'investissement. Il opérerait dans un premier temps sur la base de domaines de compétences définis de commun accord, selon une approche de subsidiarité. Pour l'heure, on ne parle plus de gouvernement, mais plutôt d'une organisation de nature intergouvernementale dénommée autorité. Et le principe de la transformation de la Commission en une autorité a été décidé à l'occasion du sommet de février de cette année. Il nous paraît judicieux d'en préciser le concept. Je crois que c'est ce que vous allez faire et les propositions qui ont été émises tout à l'heure sont, je crois, de nature à favoriser cette approche. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, alors qu'elle recèle toutes les ressources naturelles et humaines dont a besoin le monde pour assurer sa pérennité, l'Afrique présente toujours un bilan globalement négatif. Et la crise aidant, la situation économique et sociale est plus que jamais catastrophique malgré quelques lueurs d'espoir, ça et là. À ceci s'ajoutent les interminables conflits et guerres civiles qui minent et rongent notre continent. Pourtant, pour certains, la solution de sortie à ces crises résiderait dans l'avènement des États-Unis d'Afrique. Dans les premières années des indépendances, le président Kuma avait martelé dans son discours du 23 mai 1963 que l'Afrique disposait d'atouts essentiels pouvant faire de cette partie du monde une puissance économique, politique, voire militaire, et qu'elle ne devrait plus rester une vache à lait du monde développé. Je ne reviendrai plus alors sur les immenses ressources naturelles qui font de l'Afrique le continent le plus riche de la planète et maintenant le plus sollicité en matière de partenariat. Et je ne parle même pas de sa population estimée à près d'un milliard d'habitants, faisant aussi d'elle la troisième puissance démographique du monde, donc un marché important et des consommateurs importants. L'Afrique, c'est aussi 10 fois l'Europe en superficie, 4 fois la Chine, 10 fois l'Inde, 4 fois les États-Unis. Ce sont peut-être autant de raisons qui effraient et font peser comme préalable à l'avènement des États-Unis d'Afrique toute une série de préconditions. Nos États doivent s'en convaincre et amorcer résolument leur marche vers l'intégration politique et socio-économique. Car dans le même temps, l'Afrique compte 165 frontières qui la divisent en 53 pays, dont certains comptent moins d'un demi-million d'habitants. Il incombe la responsabilité des gouvernements et de l'intelligentsia de notre continent d'engager l'éveil des consciences de nos peuples, de toutes les couches de nos sociétés, pour une mobilisation générale en faveur de l'intégration africaine. C'est la voie dans laquelle s'est engagé le Sénégal en organisant ce symposium, et je salue cette initiative qui doit faire des émules. Pour sa part, la Commission poursuivra les efforts qu'elle a déployés dans la conscientisation des États membres sur la nécessité d'accélération de l'intégration africaine, seule voie de salut et d'affirmation d'une Afrique forte, unie et prospère. Je vous remercie.